إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 36 dans l'explication du livre Kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab Al-Jahim. Et on lit le livre de, donc c'est le livre de Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et on le lit le livre avec les commentaires de du Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, Hafizahullah. Donc on est arrivé maintenant, on rentre dans un nouveau, ou pas un nouveau, mais disons une nouvelle, je sais pas comment décrire ou expliquer, mais disons qu'on rentre dans un nouveau sujet dans le livre. Disons que le sujet c'est toujours le même, l'interdiction d'imiter les koufars et de ressembler aux koufars. Mais là il rentre dans une autre question, dans un autre sujet, et c'est la question de la divergence. On a parlé au dernier cours de la division, dans les derniers cours qu'on a fait, on a parlé de la division et on a mentionné les hadiths et les différentes narrations au sujet de la division de la Ummah, et le hadith des 73 sectes, et du fait que sur ces 73, il y en avait une seule qui rentrait au paradis, et que les 72 autres étaient en enfer, et que la secte ou le groupe qui sera sauvé, c'est le groupe qui suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Hein? Ça, tout ça, on a expliqué en détail. On a parlé aussi également du hadith, yani de la rage, hein, et des gens de bid'a qui sont comparés à des gens qui ont la rage. Et on a parlé également yani de d'autres questions qui ont rapport avec ça. Maintenant, on rentre dans la question de la divergence et des divergences. Donc, c'est relié à la division. C'est relié à la division car la divergence amène à la division en général. Mais le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va détailler là-dessus. Donc, on va lire qu'est-ce qui est écrit dans les paroles de Cheikh Al-Islam et l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan par la suite. Il dit « Thumma » يقول رحمه الله ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف الذي دلت عليه الأحاديث هو مما نهي عنه في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne l'interdiction de la divergence. Il dit, et cette divergence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée, eh bien, soit que c'est seulement dans la religion, ou bien que c'est une divergence dans la religion et dans la dunya aussi. C'est-à-dire dans les affaires de la religion et dans les affaires de la dunya. Puis, cela peut amener par la suite à la dunya. Hein? Ça peut ramener à des divisions dans la dunya et des divergences dans la dunya. Et c'est possible que ce soit des divergences qui sont uniquement dans la dunya aussi. Et cette divergence, c'est ce qui a été mentionné dans les hadiths de la division et de la divergence, et c'est ça ce qui nous a été interdit, c'est-à-dire la divergence et la division. On a Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit les musulmans de diverger et de se diviser, et en particulier dans la religion, parce que la religion, c'est de se diviser dans la religion et dans la croyance, c'est encore plus grave, hein, c'est encore plus grave. Et il y en a actuellement des groupes de bid'a et des groupes d'égarement qui prétendent que il faut accepter toutes les divergences et qu'il faut accepter que c'est une sorte de diversité. Et ils disent même que c'est quelque chose qui enrichit, hein, l'islam, du fait qu'il y a beaucoup de diversité, et donc ça c'est quelque chose de bien, hein. Ils disent que l'islam est une religion pluraliste et qu'elle accepte la divergence et des choses de ce genre. Et pour eux même, selon eux, Allah al-Musta'an, eh bien l'islam accepte même la contradiction, et ça c'est un blasphème et un mensonge absolu, puisque c'est faux. L'islam interdit, hein, la divergence dans la religion et dans la croyance, et les sahaba n'ont jamais divergé, ne se sont jamais divisés dans la religion. Donc ils appellent au pluralisme religieux et au pluralisme politique et à la liberté de croyance, la liberté d'expression, et ça c'est un mensonge. Et ceux qui appellent à ça, en général, c'est les gens de bid'ah parmi les ikhwan et ceux qui leur ressemblent. Donc il dit, le cheikh, il mentionne des versets dans le Coran qui prouvent l'interdiction de la divergence et de la division. Il dit dans le verset 105 dans Surat Al-Imran: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur sont parvenues, et ceux-là auront un châtiment énorme. Et le verset 159 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui se sont divisés dans leur religion et sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux, hein? Tu n'as rien à voir avec eux ou bien avec elles, ceux qui sont devenus des sectes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a rien à voir avec les groupes et les sectes, et ce sont ceux qui se sont divisés. Donc c'est un genre de désaveu, hein, et il se désavoue de ceux qui se divisent. Après il mentionne, il dit dans le verset 153 dans sourate Al-An'am, il dit wa anna hadha sirati mustaqiman. Ça c'est le verset dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin, qui vous diviseront de son chemin. Et ça c'est pour dire que c'est expliqué dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé la ligne droite sur le sol, et à gauche et à droite de la ligne, il a tracé plein de petits traits. Donc il a fait une ligne droite, puis à gauche et à droite, il a fait des petits traits comme ça. Puis il a dit, la ligne droite c'est le chemin d'Allah, et les petits chemins à gauche et à droite, c'est les chemins où, à la tête desquels il y a des diables qui appellent les gens à les suivre. Et il a récité ce verset pour expliquer. Donc c'est pour dire, il y a un chemin d'Allah, et c'est la vérité, et c'est le chemin droit qu'on doit suivre, et il y a les petits sentiers qui égarent et qui divisent les gens. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire maintenant sur ça. Il dit, « Al-iftiraq wa al-ikhtilaf madhmoumun ala sabil al-umum, lakinnahu yatafawat, fa inna ba'dahu ashaddu min ba'd. » فأشده الاختلاف في الدين لأنه يؤدي إلى الضلال والكفر وإلى النار وإلى النار في النهاية. Donc le cheikh dit que la division et la divergence, c'est quelque chose de façon générale, c'est blâmable dans l'islam. La division et la divergence, de façon générale, c'est quelque chose qui est blâmable. Sauf que c'est quelque chose qui a des degrés différents de gravité ou de sévérité. C'est-à-dire qu'il y a des divisions et des divergences plus sévères que d'autres. Ce n'est pas toutes à un même degré. Et certaines sont plus graves que d'autres. Et il dit, le plus grave et le plus dangereux, c'est la divergence dans la religion. La division et la divergence dans la religion, dans la croyance. Parce que cela amène à l'égarement et à la mécréance. Et à la fin, au feu de l'enfer. Le cheikh il dit ensuite, وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الدُّنْيَا كَالنِّزَعَاتِ وَالْخُصُومَاتِ وَالْمُشَاجَرَاتِ فهذا أيضا مذموم وإن كان أخف من الاختلاف في الدين والمطلوب في مثل هذا الحال الإصلاح وإذا استدعى الأمر فلا بد من البت في القضية على يد قاد يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la divergence dans les affaires de la dunya, comme les conflits, les disputes, hein, les désaccords entre les gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, le cheikh, il dit ça, premièrement, c'est quelque chose de blâmable. C'est quelque chose de blâmable, même si c'est moins grave que la divergence et dans la religion. Mais c'est moins grave, mais c'est quand même quelque chose de blâmable. Et il dit, qu'est-ce qui doit être recherché? Qu'est-ce qu'on doit chercher à faire lorsqu'on a ce genre de désaccord ou de conflit entre des personnes? C'est de chercher à la réconciliation. C'est-à-dire à chercher à faire la réconciliation, hein, et à corriger le problème. Le cheikh il dit ensuite, toutefois si ça demande qu'on ait recours à un juge, parce qu'il y a un conflit entre deux personnes, puis on n'est pas capable de faire la réconciliation entre nous, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ramène l'affaire devant le juge, qui va juger selon le Coran et selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour trancher entre les personnes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le, hein, retournez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et à son messager, c'est-à-dire à la sunna de son messager après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu c'est les ulama qui jugent, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le livre d'Allah et c'est eux qui connaissent le mieux la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut retourner aux hommes de science pour qu'ils tranchent dans la vérité pour nous, et ça c'est une obligation pour le croyant. Okay? Après le cheikh il dit, wal-ikhtilaf يشمل الاختلاف في الأموال والاختلاف في العقائد والاختلاف في العبادات وكله مذموم يجب على المسلمين تركه لأنه أسلم وأحوط للقلوب وفي تركه اجتماع الكلمة لأجل ذلك أمرنا الله تعالى بعدم التفرق فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Donc le cheikh il dit, la divergence comprend les divergences au sujet de l'argent, les divergences au sujet de la croyance, ou des différentes croyances, la divergence dans les adorations, tout ça c'est blâmable, hein? Et le musulman doit abandonner ça, doit abandonner ces divergences-là, et revenir à la vérité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est plus sécuritaire pour lui, et plus... ça sera une protection plus grande pour son cœur. Parce que s'il tombe dans la division, dans ces choses-là, c'est dangereux et c'est grave pour lui. Il sera jamais en paix. Et si il laisse tomber, s'il laisse tomber la divergence, eh bien, c'est là que les gens pourront unir leurs paroles et être unis. Mais tant qu'il reste dans la division et dans la divergence, ils ne peuvent pas s'unir. Et c'est ça la contradiction des gens aujourd'hui qui appellent les musulmans à s'unir sur la contradiction et sur la division. C'est-à-dire, ils disent, oui, on accepte les divisions, on accepte les chiites, on accepte les soufis, on accepte les khawarij, on accepte les asha'ira, on accepte toutes les différentes, les mu'tazila, et toutes les différentes groupes, et les différentes sectes, les ikhwan, tablir et tout. Puis après, ils disent, mais il faut s'unir. Alors là, c'est comme si en réalité, ils veulent s'unir, mais ils ne veulent pas régler les causes de la division. Ils veulent faire semblant qu'il n'y a pas de problème, alors qu'on sait qu'il y a le problème. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les juifs de cette façon-là, justement dans le Coran, en disant « Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ». C'est-à-dire, tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés et déchirés. Alors, tu ne peux pas unir un peuple réellement si tu ne les as pas unis sur la vérité. Si tu les as unis, tu essaies de les unir, mais sans régler les causes du conflit, surtout si c'est dans la croyance, eh bien, tu ne vas pas réussir à les unir vraiment. On va y revenir à ça, parce que Cheikh l'Islam, il va l'expliquer, mais sinon, en résumé, ou bien pour expliquer le mot divergence lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand deux personnes ne sont pas d'accord sur quelque chose. Hein? Comme par exemple, juste pour donner un exemple, c'est pas nécessairement relié à la religion, mais juste pour que vous compreniez qu'est-ce que ça peut être une divergence, c'est comme si par exemple, moi je dis, je veux que la mosquée, la couleur soit vert et orange, et un autre vient, il dit non, je veux que ce soit rouge et violet ou une autre couleur. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en divergence, on diverge. Moi et cette personne, on n'a pas les mêmes opinions ou le même point de vue. Et ce n'est pas des affaires de religion, c'est des affaires de la dunya, où c'est des choses qui sont des détails. La couleur de quelque chose, un il veut le tapis bleu, l'autre il veut le tapis rouge, hein, et là ils sont pas d'accord, on est divergent. Ça c'est des exemples de divergence, d'accord? Il y en a des gens qui se divisent pour ça, et ça c'est vraiment futile en réalité, mais bon, c'est juste pour donner un exemple. Na'am. Donc le cheikh il explique que on doit abandonner la divergence et réunir la parole des musulmans pour qu'ils soient unis sur la vérité. Et ça, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser. Il nous ordonne de ne pas nous diviser. Donc, il dit dans Surat Al-Imran, le verset 105, et ne soyez pas, hein, il dit ce qui signifie, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soient venues les preuves claires. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont reçu le Coran, ils ne peuvent pas commencer à être en désaccord et se diviser. Parce que le Coran, il est clair. Et la Sunna, elle est claire. Donc, en principe, on n'est pas supposé d'être en divergence. Et le cheikh, il va, de toute façon, il va élaborer sur la divergence. Ce n'est pas un cours qu'on va faire sur ça. Les cours à venir, peut-être 3 ou 4 cours encore vont être sur ce sujet. Parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a détaillé sur toutes les différentes sortes de divergences et les différents cas de divergence. Donc vous allez voir que ce n'est pas un sujet qu'il prend comme ça à la légère. Il va jusqu'au bout dans le sujet pour le clarifier jusqu'à ce que ce soit clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Le Cheikh, il dit « Thumma inna hadha l'ikhtilaf yu'addi ila safki d-dima wa istibahati l'a'rad » واعتداء بعض الفرق على بعض في حين أن الكل يدعي أنه على الإسلام وقد حرم الله الاعتداء على النفس وتواعد فاعله فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Donc le cheikh il dit, et c'est pour cette raison que si tu regardes les résultats ou les conséquences de la divergence, tu constates que la divergence elle amène à faire couler le sang, hein, le fait que les gens commencent à s'entretuer à cause des divergences, et qu'ils se permettent de porter atteinte à l'honneur les uns des autres. Hein? Ils se permettent de porter atteinte à l'honneur de l'un et de l'autre, des uns des autres. Et ça c'est grave. L'honneur, c'est quoi? Hein? C'est quand tu insultes quelqu'un dans son honneur, dans sa famille. Hein? Et donc ça, c'est grave. Et Al-I'tida, donc certaines sectes, elles vont commencer à transgresser contre les autres. Chacune d'elles va attaquer l'autre. Et donc ça, c'est ce qui arrive. Alors qu'elles prétendent toutes et elles se disent toutes être musulmanes et être sur l'islam. Hein? Donc c'est ça ce que tu vois maintenant. Des groupes de musulmans, chaque groupe dit il est musulman, et puis ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de se tirer dessus, ils sont en train de s'insulter, ils sont en train de se traiter les uns les autres de kuffar, hein, ou d'égarés, ou des choses comme ça. Ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de la divergence. Mais si les gens étaient unis sur la vérité et sur la sunna, il n'y aurait pas ça. Hein? Les gens ne seraient pas dans cette situation-là. Et c'est tellement grave lorsque quelqu'un commence à transgresser contre quelqu'un d'autre au point où il commence même à tuer, hein, l'autre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé celui qui commet le meurtre. Il dit, et celui qui tue un croyant intentionnellement ou volontairement, alors sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah est en colère contre lui et le maudit, et il a préparé pour lui un châtiment énorme. Et donc le cheikh, il explique, il dit ensuite: fal qatlu min akhtar madar al-ikhtilaf lidhalika jaa at-tahdhir min safk ad-dimaa bighayr haqq. قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني أن وليه سينصره الله عز وجل وسيمكنه من هذا الظالم فيقتص منه ولو على المدى البعيد. Donc, le cheikh, il explique que le meurtre, c'est un des dangers les plus nuisibles de la divergence. Et il dit que c'est pour cette raison-là que, yani, il y a eu l'avertissement dans le Coran de faire couler le sang de quelqu'un injustement, hein, et sans qu'il y ait un droit. Et il mentionne le verset 33 dans Sourate Al-Isra. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Car il est déjà assisté par la loi. Cheikh Al-Fawzan, il explique le verset en disant que ça signifie que son proche parent, c'est-à-dire le proche de la victime, celui qui a été tué, Allah subhanahu wa ta'ala va le défendre et va lui donner la victoire contre son agresseur. Et il va lui donner, il va le mettre en position d'attraper cet injuste pour qu'il puisse faire appliquer la loi contre lui, hein, pour qu'il soit exécuté à son tour. Même si c'est à un temps éloigné que ça va, que la justice va être faite, mais ça va se passer quand même. Allah va l'aider à faire trouver sa justice pour son proche. Naam. Subhanallah. Peut-être c'est possible. J'ai entendu cette histoire, mais en fait, qu'est-ce qui est important de comprendre dans cette histoire là, c'est que dans qu'est-ce qui a rapport avec le meurtre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que la personne qui a été lésée ait la justice. Mais il y a une chose que tu dois te souvenir par rapport à ça, c'est que dans l'islam, si quelqu'un il a commis un meurtre et que les proches de la victime, par exemple, ont attrapé, ou bien disons que l'autorité ont attrapé le coupable, eh bien, la famille des proches ou les héritiers ont le choix de pardonner cette personne, et ou bien de faire que la peine soit appliquée sur lui. Oui, oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ici. Ça n'existe pas chez les koufars, ça. C'est seulement dans l'islam. Que si quelqu'un fait un meurtre et que les héritiers de la victime décident de lui pardonner ou de lui faire miséricorde, eh bien, il va juste payer la diya et il va payer le prix de son sang, mais il ne va pas être exécuté. Ça c'est une chose particulière dans l'islam qui n'existe pas yani, dans les pays non musulmans. Sinon, quelqu'un qui est reconnu d'un crime, il va être en prison, peut-être, ouais. Puis dans certains endroits, il va être même électrocuté sur une chaise, comme aux États-Unis, où on va lui faire une injection de poison, je ne sais pas quoi. Allah al-Musta'an. Donc, Allah al-Musta'an. D'accord, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام الذي وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة فسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rapporté selon Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, selon son père. Il dit qu'il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et un groupe des sahaba dans un endroit qu'on appelle Al-Aliya. Puis il est passé vers la mosquée de Bani Muawiyah. Il est rentré et il a fait rak'atayn. Il a fait deux rak'at et il dit on a prié avec lui. Puis il a invoqué longuement son Seigneur. C'est-à-dire il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala longuement. Puis il s'est tourné vers les sahaba. Puis il leur a dit j'ai demandé à mon Seigneur trois choses et il m'en a donné deux et la troisième il me l'a pas donné. La troisième il me l'a pas donné. Il a dit j'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne fasse pas périr ma umma par une famine et il me l'a donné. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne fasse pas périr ma umma par la noyade. Et il me l'a donné. Et je lui ai demandé qu'il ne fasse pas que yani, les musulmans, ma umma se frappent les uns les autres. Et il ne me l'a pas donné. Il ne me l'a pas donné. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant le hadith. Il dit, « Mafadu al-hadith, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, kana fi nafarin min ashabih, fa arada an yusalli, فمر على مسجد في طريقه فصلى فيه والصلاة في المسجد أفضل بلا شك لأن لا لأن هذا المسجد له خاصية كما يظن الخرافيون وإنما لأنه كان في طريقه وقريبا منه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ودعا ربه ففيه أنه يستحب أن يكون الدعاء بعد صلاة وأن يكون في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة ثُمَّ دَعَ رَبَّهُ. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec un groupe de ses compagnons, il a voulu prier, il est passé sur un chemin près d'une mosquée, il est rentré pour prier. Donc on peut comprendre que la prière dans la mosquée, elle est meilleure, sans aucun doute. Pas parce que pas parce que cette mosquée, elle a une particularité. Pas parce qu'elle a quelque chose de particulier. Non, c'est une mosquée comme les autres. Hein? Contrairement à ce que s'imaginent les gens superstitieux. Hein? Ils disent, oh, cette mosquée-là, elle est spéciale. Si tu pries dedans, il y a quelque chose de particulier. Non, c'est pas pour ça. Le prophète Sansem, il a prié dans cette mosquée-là en particulier parce qu'il est passé à côté. Et prier dans la mosquée, c'est mieux que de prier dehors, hein, ou de prier ailleurs. Donc il est rentré, il a fait la salat et il a invoqué son Seigneur. Et il y a dans ce hadith-là également le fait qu'il est recommandé que le dua soit fait après la salat. C'est-à-dire quand tu veux faire un dua, c'est recommandé de faire ton dua après que tu aies fait la salat. Ça risque, ton dua risque plus d'être exaucé après que tu aies fait une bonne action ou que tu aies fait une bonne œuvre, comme la salat par exemple. Tu fais rak'atayn, après tu fais le dua, tu as plus de chances d'être exaucé, ou bien disons, pour être plus exact, au lieu de dire plus de chances, on dirait plutôt, yani c'est plus propice à recevoir yani une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais une salat ou bien yani une nafila. Et après, le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc fait une prière surérogatoire, puis il a invoqué son Seigneur. Il dit, فَقَوْلُهُ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثنتين وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا يعني بالجذب الجذب بسبب الانحباس المطر فأعطانيها فالأمة لا ينحبس عنها المطر جميعها وإنما قد ينحبس عن طائفة دون أخرى. Donc le cheikh il dit que il a demandé à son Seigneur, il dit, j'ai demandé à mon Seigneur trois choses, il m'en a donné deux et une il me l'a refusée. Il dit, j'ai demandé qu'il ne fasse pas périr ma Umma par la famine. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la famine? On dit par la sécheresse. C'est-à-dire que Allah retienne la pluie et qu'il n'y a plus de pluie. Donc, ça, Allah lui a donné. C'est-à-dire que la Ummah ne va pas être, yani, va pas périr parce qu'il n'y a pas de pluie ou que toute la Ummah ne va plus avoir de pluie du tout. Non. Il dit, c'est possible que certaines parties ou certaines régions de la Ummah ne vont pas avoir de pluie, mais pas toute la Ummah au complet en même temps, d'accord? Et il a dit, comme deuxième chose qu'il a demandé à son Seigneur, il a dit, سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ بِالْغَرَقِ الْعَامِ كَالْغَرَقِ بِسَبَبِ الْأَنْهَارِ أَوْ السُّيُولِ أَوْ الْفَيَضَانَاتِ كَمَا أَهْلَكَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَ نُوحٍ. والمقصود بالغرق الغرق العام الذي يستأصل الناس بالكلية ولكن قد يحصل الغرق لبعض هذه الأمة ولا يعم. Donc le cheikh il dit, il a demandé à son Seigneur de pas faire périr la Ummah par la noyade générale, c'est-à-dire de noyer toute la Ummah au complet. Et il dit, c'est comme par exemple la noyade causée par par la rivière ou par les courants ou les torrents ou bien les rats de marée ou les inondations, les rats de marée, les tsunamis ou des choses comme ça, hein? Non. Donc il a dit. Ensuite, il a dit. Non. Et la deuxième chose, oui, il a dit ça, c'est des choses qui ont fait périr le peuple de Pharaon et le peuple de Nuh, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la noyade générale, hein? La noyade, c'est la noyade générale qui élimine ou qui fait périr tout le monde, hein, sans exception. Et c'est possible que ça arrive à certaines parties de la Ummah, mais pas à la Ummah au complet. Ok, qu'ils vont périr comme ça. Et il dit, en ce qui concerne la troisième, amma thalitha falam yujibhu Allah azza wa jal ilayha wa hiya qawluhu an la yaj'ala ba'sa al-umma baynahum bal sayakunu ba'sa al-umma baynaha shadidan kama qala jalla wa ala qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. Donc il explique le cheikh que la troisième chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qu'il ne lui a pas exaucée, il ne lui a pas donnée, c'est quand il lui a demandé de ne pas faire en sorte que la Umma soit châtiée ou soit plutôt yani périsse à cause qu'elle se frappe elle-même, hein, que des éléments de la Ummah frappent les autres, hein, que certains musulmans combattent ou frappent d'autres musulmans. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné, il ne lui a pas donné, il lui a refusé ce doua-là, et il a dit même que la Ummah, les coups entre les musulmans seront très très durs. Walaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire les problèmes et les conflits et les coups entre les musulmans seront très très forts. Il y aura beaucoup de difficultés. Et il a cité le verset 65 dans Surat Al-An'am. Et ce verset-là, 65 dans Surat Al-An'am, c'est en fait l'explication, le hadith en question, il explique ce verset-là. Hein, c'est les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Ça dit, ô Muhammad, il est capable, lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, de susciter contre vous, d'en haut ou de dessous de vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme, dans la division, hein, du sectarisme, et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns aux autres. Hein, l'ardeur des uns contre les autres. Et regardez comment nous exposons nos versets, peut-être comprendront-ils. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique. Subhanallah. Naam. Hakim, montez le chauffage là un peu. Je me sens Freddy. Hein? je sens le froid. Non, c'est pas celui-là. Ok. Naam. Le cheikh, il dit, « Ma'na shi'an firaqan yasfiku ba'duhum dima'a ba'd. Wa hadha ashaddu min an yanzila alayhim azaban min as-sama' aw min tahti arjulihim. Fallahu mana'ahu min hadhi thalatha. لأن الله من حكمته أن يجري الاختلاف بين الناس لأجل الامتحان والابتلاء. Donc le cheikh il dit, quand dans le verset Allah il dit qu'il vous fasse goûter la division du sectarisme, hein? Donc il a dit ça veut dire quoi? Shi'an, ça veut dire des parties, des sectes en fait, des groupes, des divisions à l'intérieur des musulmans. Et que chacun fait couler le sang de l'autre. Chaque groupe fait couler le sang de l'autre. Ça, c'est parmi les plus durs châtiments que Allah fait descendre. Et il dit que c'est même plus dur comme châtiment que les châtiments qui descendent du ciel ou qui viennent de par en dessous de leurs pieds. Il dit, et Allah donc a refusé de donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce doua et de l'exaucer, parce que il fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ces divergences se produisent entre les gens dans le but de les tester et dans le but de les éprouver. Donc, c'est en réalité une épreuve et un test. Hein? Tout ce que tu vois qui arrive comme divergence, comme division entre les musulmans, ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre les musulmans à l'épreuve et pour les tester, pour savoir lesquels d'entre eux vont chercher la vérité et lesquels d'entre eux vont rester dans le faux. Si par exemple, quand on regarde les différents, parce que déjà le professeur Sam, il nous a dit qu'il y allait avoir 73 sectes. Et que la Oumma allait se diviser. Donc ça, c'est pas un secret. Et c'est pas une surprise non plus. Quand on voit les divisions, on dit, ah, comment ça se fait qu'il y a des divisions? Non, on n'a pas besoin de dire ça. Et c'est pas normal même de dire ça, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, il va y avoir des divisions. Il dit, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il dit, celui qui va vivre après moi, il va voir beaucoup de divisions. Il n'a pas dit un peu de divisions. Il n'a pas dit des petites divisions, il a dit beaucoup de divisions. Donc ça c'est pour nous dire, préparez-vous, soyez pas surpris. Quand vous allez voir les divisions, sachez que ça c'est quelque chose que je vous avertis déjà que ça va arriver. Mais il ne nous a pas laissé juste comme ça en nous avertissant contre la division et la divergence. Il nous a en même temps donné la solution et le remède à ces problèmes. Et il nous a dit, si, quand vous allez voir ça, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés. Pas oublier, fermez bouchon, hein, parce que si ben, elle a tombé comme ça, on connaît sa cas privé. Hein? Bon, je m'excuse. Donc c'est pour dire que les divisions, ça c'est quelque chose que Allah a prédestiné. Et il y a un remède à ça. Le remède, c'est de s'accrocher à la sunna et de s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs salih. Donc, quand on regarde ça, on comprend que Allah, il veut nous mettre à l'épreuve. C'est comme si tu dis, par exemple, si tous les musulmans étaient toujours sur un seul groupe et tous sur le même islam et la vérité depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'y allait pas avoir vraiment de tests ou d'épreuves pour les musulmans dans ce cas-là. Quelqu'un il est né musulman, il dit ah je suis sur le haq, et quelqu'un il n'est pas musulman, il devient musulman, ça y est, il est sur le haq. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des divergences et des divisions pour que celui qui est né musulman, il ne va pas juste dire, ça y est, je suis né musulman, ça suffit. Ou bien, je suis musulman en nom, ça suffit. Non. Même si tu es né musulman, parce qu'il y en a qui disent, ah, toi, t'es converti à l'islam, tu es devenu musulman, mashallah, Allah, il t'a guidé. Comment comment tu t'es converti à l'islam? Raconte-moi comment tu as découvert l'islam. Et ils sont très enthousiasmés à vouloir découvrir l'histoire de cette personne et comment il a trouvé l'islam. Alors que lui-même, cette personne, qui est née dans une famille musulmane, peut-être que sa famille sont des soufis, peut-être sa famille sont des chiites, peut-être sa famille sont des asha'ira, ou des ikhwan, ou des tabliriyin, hein, ou n'importe quel autre groupe. Et lui-même, il est dans un pays, peut-être qu'il est tellement confus, mélangé, il ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est l'islam. Parce qu'il suit l'islam traditionnellement, et par coutume. Et il ne s'est jamais posé la question, est-ce que l'islam qu'on pratique chez nous, dans notre village, ou dans notre ville, ou dans notre pays, ou dans notre région, est-ce que ça c'est l'islam le même que celui que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les tabi'in, ou bien c'est quelque chose qui a été déformé et changé avec les siècles et qu'en réalité on est très 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 loin de la réalité de l'islam mais on l'ignore. On suit quelque chose sans même savoir est-ce que c'est vraiment ça l'islam ou non. Hein? Donc peut-être que c'est des gens qui sont sur une secte, sur une tariqa, sur un groupe de bid'ah et ils ignorent. Donc, le fait qu'ils commencent à chercher, à trouver la sunna parmi les différentes sectes, à trouver la voie des salafs parmi les différentes voies d'égarement qui existent parmi les musulmans, ça c'est une grande épreuve pour les musulmans. Et ça veut dire que c'est un test pour leur sincérité, et pour leur foi, et pour voir si ils sont vraiment en train de chercher l'islam pour Allah ou juste de vouloir être musulman par nom et par tradition. Donc quand tu vois quelqu'un qui te dit « Moi, je suis né dans une famille soufie » ou « Je suis né avec en Iran avec une famille chiite » ou « Au Liban » ou « Au Pakistan avec une famille de chiite » ou bien « J'étais dans une tariqa, mes parents étaient des Naqshbandi » ou « Des Chisti » ou « Des Sahrawardi » ou « Des Boutchichi » ou « Des je ne sais pas quoi » et puis il dit « Et après, Allah m'a guidé à la sunna » Allah m'a guidé à la voie des salafs au salih et maintenant je suis sur la voie des salafs et je me suis écarté de toutes les bid'as, de tous les égarements. Ça c'est encore plus difficile que quelqu'un qui était chrétien parfois et qui parmi les différentes religions d'égarement a vu l'islam puis l'a reconnu puis l'a suivi. Parce que l'islam parmi les religions elle est visible, elle est claire. Mais à l'intérieur des pays musulmans, pour distinguer entre le vrai et le faux, ça c'est plus difficile, parfois. C'est plus compliqué. Hein? Et même des fois tu dis à quelqu'un, oh, « Mais qu'est-ce que vous pratiquez là, ça c'est pas correct. » Il dit, hey, « Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous on est musulmans, hein? Ça fait des siècles qu'on est des musulmans. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, mon grand-père était un cheikh. Hein? » Et donc, qu'est-ce que tu penses là? Toi, tu vas venir m'apprendre ma religion? Toi, tu viens de te convertir là? Tu commences à parler comme si tu penses que tu sais quelque chose? Non, c'est comme ça que les gens sont. Illam rahimallah. Donc, ça c'est pour dire que il faut vraiment avoir beaucoup de sincérité pour être capable de reconnaître la vérité parmi les égarements si on est né dans une famille musulmane parfois. Et c'est vrai ce qu'il dit le frère. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué surtout dans les pays musulmans non arabes où les gens ne sont pas arabophones. Si tu leur ramènes n'importe quelle preuve, même le Coran, même les hadiths. Non. Donc les gens, tu leur ramènes des paroles dans le Coran, tu leur ramènes les paroles des hadiths sahih, tu lui ramènes des livres, des paroles des ulama de Ahl Sunnah, les preuves claires dans les livres, ils ne veulent pas écouter, ils vont écouter leur cheikh soufi qui leur dit n'importe quoi. Peu importe qu'est-ce que tu leur ramènes comme preuve claire et évidente, ils ne vont pas l'accepter. Un seul mot de leur cheikh suffit pour les convaincre. Même si c'est la plus grande fausseté, le plus grand mensonge qui soit. Hein? Donc c'est pour dire, et c'est pas parce que c'est, dans le sens que, il croit à cette personne-là, mais pourquoi il croit en lui de cette façon-là? C'est parce qu'il lui donne une valeur ou ils ont une certaine croyance par rapport à leur chouyour. Comme si c'est des prophètes. Hein? Il les croit à la lettre. Et pour différentes raisons, Yanni. Allah musta'an. Donc, comme le frère, il dit ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'ils mettent la parole de leur cheikh, ou de leur madhhab, ou de leur imam, ou de leur, au-dessus de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus des hadiths authentiques, hein, et même parfois, au-dessus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux parce que c'est des choses qui ont été mentionnées dans le Coran et dans les hadiths. Même que Abdullah ibn Abbas, il disait, je crains que les pierres tombent du ciel sur vos têtes. Quand je vous dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose et vous me répondez, oui, mais moi, je préfère suivre Abu Bakr et Omar. Il dit, est-ce que vous êtes en train d'essayer de mettre Abu Bakr et Omar ibn Khattab, qui sont deux parmi les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont à un niveau de piété, et personne ne peut les égaler dans cette umma. Hein? Malgré tout, s'ils disent quelque chose qui contredit la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de prendre leur parole. On est obligé de prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de laisser leur parole. Et tous les imams des quatre madhahib, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmed, ils ont tous dit ça. Ils ont dit, si vous trouvez un hadith qui contredit ma parole, laissez ma parole et suivez le hadith. Ils ont tous dit ça. Donc, yani, si un cheikh soufi aujourd'hui, tu lui dis, tu lui mentionnes le hadith, tu lui mentionnes le verset, il le rejette, quoi, est-ce que lui, il est mieux que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed? Est-ce qu'il est mieux que Abu Bakr Omar? Hein? Radiallahu anhum? Non! Donc, comment lui, il met sa parole au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pas grave? Et les sahaba, eux, considéraient que si tu mettais la parole d'Abu Bakr et Omar au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était grave au point que les pierres allaient tomber sur leur tête du ciel. Hein? Ils craignaient ça pour la personne qui agissait ainsi. Donc, c'est pour montrer la gravité. Le cheikh, il dit ensuite, وَيُشْبِهُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يُقِعُ الْخِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَتَشَاجَرُونَ ويتقاتلون عقوبة لهم على مخالفتهم لكتاب الله عز وجل ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم ما وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وهذه سنة الله وهذه عقوبة لمن قصر وخالف والله لا يظلم أحدا. Donc le cheikh il dit que yani, qu'est-ce qui, parmi les choses qui ressemblent à ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va jeter la divergence entre les gens et ils vont se disputer, ils vont se combattre les uns les autres par, et ça sera un châtiment pour eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir contredit le livre d'Allah. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Ibn Majah selon Abdullah Ibn Umar, lorsqu'il dit, tant que vos dirigeants ne jugeront pas par le livre d'Allah et qu'ils ne vont pas choisir ce que Allah a révélé, excepté que Allah va mettre, hein, va les frapper les uns contre les autres, hein, va faire en sorte qu'ils se frappent les uns les autres, parce que les gens ne jugent pas par le livre d'Allah et ils ne retournent pas à ce que Allah a révélé. Donc c'est une punition en fait. Oui, bien sûr que c'est fort. Non, dans le sens que quand les gens, lorsqu'il y a des problèmes et des conflits, ils ne vont pas juger par la loi d'Allah, ils ne vont pas juger par le Coran et la Sunna, eh bien, les gens vont se frapper les uns les autres. Tu vois que les dirigeants et la population, les gens, ils ont des conflits. La population, les uns contre les autres, ils ont des conflits. Tout le monde a des problèmes, les uns avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas selon la justice. On ne juge pas selon qu'est-ce que Allah a révélé. On juge selon nos passions ou nos désirs, ou nos traditions, ou nos coutumes, ou selon les lois que X ou Y ont inventées, et on laisse de côté qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le résultat de ça, c'est les conflits qu'on voit actuellement dans les pays musulmans. Beaucoup des conflits, je dirais peut-être 90% des problèmes qui existent dans la Ummah, que si on appliquait qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna, 90% de ces problèmes-là, ils seraient disparus. On n'aurait même pas de problème. Parce que quand on juge par la loi d'Allah et par la charia d'Allah, eh bien, tout le monde, on se met d'accord sur ça. Et on est d'accord sur ça. C'est pour ça que tu vois, par exemple, si tu compares des pays arabes, tu regardes l'Arabie Saoudite, puis tu regardes un autre pays arabe parmi les pays arabes, c'est vrai qu'il y a des problèmes ou des conflits en Arabie Saoudite entre les gens, parfois. Mais, si tu compares les problèmes qu'il y a là-bas avec des problèmes qui existent dans d'autres problèmes, dans d'autres sociétés musulmanes, wa alaykoum salam wa rahmatullah, mais tu trouves qu'il y a moins de problèmes. Tu vois? Moi, je me rappelle en Arabie Saoudite, subhanallah, juste pour vous donner un exemple, les gens, par exemple, à l'université, quand ils ramènent la paie pour les employés et pour les élèves, à chaque mois, il y a la bourse pour les élèves, puis le salaire pour les professeurs. Eh bien, l'employé de l'université qui donne les salaires, il arrive de la banque avec les deux gros sacs d'argent comme ça dans sa voiture. Il met ça dans sa voiture, il prend, il sort de sa voiture, il rentre dans son bureau, il rentre dans la faculté avec les deux sacs comme ça dans ses mains. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas un gardien avec un arme ou un surveillant ou rien, non. Il rentre comme si rien n'était. Et il n'y a personne qui va le toucher ou qui va penser même à faire quoi que ce soit. Si c'était ici, c'était pas possible. Exactement. Mais non, c'est pas une boutique d'or qui vend de l'or. C'est une rue au complet de vendeurs d'or. Et ils ferment une petite porte en métal avec un petit cadenas ou quelque chose, mais allez, c'est pour dire. Ça tu peux pas trouver ça dans d'autres pays où les gens appliquent pas la charia d'Allah. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse panne d'électricité. Ok, il y avait peu d'électricité pendant quelques heures, puis à New York, c'est devenu la folie, le chaos. C'est l'armée qui est intervenue. Et un frère, justement, qui venait du Yémen, ils disent que les pays musulmans, les gens ne sont pas civilisés. Il a dit, subhanallah, il a dit, nous, les coupures d'électricité, on en a tous les jours. Et malgré tout, il n'y a personne qui va voler l'autre. Il n'y a personne qui va faire quelque chose à l'autre. C'est normal. Hein? C'est pas parce qu'il n'y a pas le policier, il n'est pas là, on va pas voler. Non. Hein? Une fois, il y a eu une grève de policiers. Je pense que c'était ici, à New York. Les gens volaient comme ça, la police, ils faisaient rien. Ils ont dévalisé les magasins, volé et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas la notion de taqwa, yani, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir que même s'il n'y a pas la police, Allah il te regarde, il va te juger, tu ne peux pas voler. Hein? Mais ça, c'est un exemple. Tu vois? Maintenant, après, le gouvernement, ils ont voté une loi pour interdire à la police de faire des grèves. Et c'est pour ça que maintenant, tu les vois avec les pantalons d'armée. Et les policiers, ils ont les pantalons d'armée. Pourquoi ils portent les pantalons d'armée? Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève. Donc, ils font comme moyen de pression, ils mettent ce genre de pantalons-là pour dire on ne va pas porter notre uniforme normal, on va porter ça, comme pour montrer qu'on n'est pas content là. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'ils font maintenant. Et ils mettent des autocollants sur leur voiture. C'est pas seulement à Médine et à Mecca. Même dans les autres villes, c'est comme ça aussi. Et il y en a qui disent, oh, l'Arabie Saoudite, c'est juste Mecca et Medina qui est bon. Et le reste, c'est pas bon. C'est pas vrai. Si tu vas même dans les grandes villes et dans les autres villes, tu vois là, il y en a les mosquées et le bien, et les gens sont là, mashallah. C'est sûr qu'il y a peut-être plus de péchés. Il y a peut-être plus de péchés dans les grandes villes que dans les petites villes, ça c'est naturel. Parce qu'il y a plus de monde. Hein. Mais, comparé à n'importe quelle ville américaine, tu vas regarder le taux de crime, le taux de criminalité et les problèmes sociaux. Tu compares la capitale des États-Unis ou les grandes villes américaines, puis les villes des pays de Kufr, puis tu compares avec ce pays-là, tu vois qu'il n'y a même pas de comparaison possible. C'est rendu à un point tel que les Kuffars, maintenant dans les pays de Kufr, le crime pour eux c'est devenu normal. C'est-à-dire dans le sens que s'ils voient que le taux de criminalité est à un certain niveau, ils vont dire « Oh, c'est grave, il y a beaucoup de crimes. » Mais en même temps, les gens ne sont pas étonnés, ils ne sont pas surpris. Hein? Pourquoi? Parce que les gens voient tellement de mal, c'est devenu banal. Le cheikh, il dit ensuite... Le cheikh, il dit « وَلَمَّا وَرَوَا أَيْضًا فِي صَحِيحِهِ عَنْ ثَوْبَانِ قَالْ عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك ولأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من أقطار بين من بين أقطارها من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Tu vois Hassan, tu arrives exactement au bon moment parce que c'est le hadith que tu m'avais demandé la dernière fois. Inch'Allah. Donc il dit, le cheikh, il cite maintenant, cheikh Ibn Taymiyyah, il cite ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Thauban. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré la terre entière. Hein? L'Orient et l'Occident. Et il m'a montré le domaine de ma umma. Le domaine de ma umma. Hein, et il m'a montré qu'est-ce que ma umma allait avoir comme domaine yani sur la terre. Et on m'a donné les deux trésors, le rouge et le blanc, yani l'or et l'argent. Et j'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne fasse pas périr ma umma par une famine, hein, par une sécheresse générale. Et qu'il ne fasse pas qu'un ennemi prenne le dessus yani, sur les musulmans pour prendre leur pays ou prendre leur terre. Et j'ai demandé à mon Seigneur donc ces choses-là et il a dit, mon Seigneur m'a dit, ô Mohammed, j'ai jugé d'un décret et il ne peut pas être repoussé. Et je t'ai donné à toi et à ta umma de ne pas périr, que je ne vais pas les faire périr par une sécheresse généralisée. Et que je ne vais pas mettre au-dessus d'eux un ennemi autre que eux-mêmes, hein, pour prendre leur terre ou leur demeure. Et même s'ils se réunissent de leur contrée ou parmi leur contrée. Et il dit, jusqu'à ce que certains d'entre eux se feront périr yani les uns les autres et se prendront les uns les autres en esclavage. C'est-à-dire que les musulmans, ils vont faire ça, ils vont se combattre les uns les autres et se prendre les uns les autres comme esclaves. Et ça, c'est rapporté par Al-Barqani dans son Sahih et il a rajouté que je crains uniquement pour ma umma les chefs égareurs, les chefs ou les dirigeants égareurs. Et lorsque l'épée sera levée, elle ne sera pas, une fois que l'épée va tomber, elle ne sera pas relevée jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit que l'heure du jugement ne va pas être établi jusqu'à ce qu'un groupe de ma umma rejoigne les mushrikines et qu'un groupe de ma umma adore les idoles. Et il y aura dans ma umma 30 dajjal, ou kazzab, 30 menteurs. Hein, 30 menteurs, chacun d'entre eux se prétendra prophète. Et moi, je suis le sceau des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Et ma umma, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Ceux qui les abandonnent ne leur feront aucun tort, jusqu'à ce que vienne le commandement d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit, قوله إن الله زوالي الأرض هذا حديث عظيم وفيه بيان نوع من المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كذلك أخبار عظيمة وفيه نهي وتحذير. الشيخ il dit que ce hadith là c'est un grand hadith et il y a dedans des explications qui sont une forme de miracle du prophète صلى الله عليه وسلم parce que il a informé des choses qui allaient arriver dans l'avenir et qui se sont produites. Et il y a des informations très graves et très importantes. Il y a aussi des interdictions et des mises en garde. Il dit فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْأَرْضِ أَيْ قَارَبَ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى رَأَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَامِلَةً فِي مَوْقِعِهِ ذَاكِ وَهَذِهِ إِحْدَى مُعْجِزَاتِهِ. Il dit, Inna Allah zawali al-ard. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui avait étendu la terre devant lui. Et il avait vu, toute la terre d'un seul coup, Donc Allah lui a montré, la terre, et il a, rapproché les différents territoires pour qu'il puisse la voir en entier. Et qu'il voit sa position, à partir de ça, il voit toute la terre. Et donc, il dit, ça, c'est un de ses miracles, que Allah lui ait montré la terre de cette façon-là. Et il dit, وَقَوْلُهُ وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَلِي مِنْهَا وَهَذِهِ هِيَ الْحِكْمَةِ فِي أَنَّ اللَّهَ زَوَى لَهُ الْأَرْضِ فَرَأَى مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا لِأَنَّ أُمَّتَهُ لأن أمته سيبلغ ويمتد ملكها إلى مشارق الأرض ومغاربها وقد تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة ومن تابعهم شاركوا في الفتوحات الإسلامية وفاتحوا بلاد فارس والروم في زمن الخلفاء الراشدين وكذلك الذين جاءوا من بعدهم في الدولة الأموية والدولة العباسية حيث بلغ سلطان هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها وخضعت الدولتان العظيمتان دولة الفرس ودولة الروم للمسلمين وسيطر المسلمون على معظم الأرض. Donc le cheikh il explique que Allah lui a montré où allait être le domaine de sa umma sur la terre. Il a dit, et ça c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison-là qu'il lui a montré la terre, c'est pour lui montrer où est-ce que le territoire des musulmans allait être. Et il a vu l'Orient et l'Occident, et il lui a dit donc jusqu'où sa umma allait arriver, jusqu'où les musulmans allaient atteindre, comme dans leur territoire, à l'Orient, et à l'Occident. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, ça s'est produit. Car après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba sont partis et ils ont fait des conquêtes et ils ont conquis les terres de la Perse et les terres des Romains. Et ça c'était à l'époque des Khulafa Rashidin. En moins de 100 ans, les territoires de l'islam se sont propagés de l'Afrique jusqu'à la Chine. Donc c'est pour dire que tout ça c'est qu'est-ce que le prophète sallam avait prédit. Et ceux qui sont venus après également parmi les khulafa, que ce soit dans l'empire des Umayyah et Dawla al-Abbasiyya après, eh bien, eux aussi, ils ont agrandi les terres de l'islam, et jusqu'à ce que le pouvoir de la Umma et l'autorité de la Umma atteignent l'Orient et l'Occident. Et les deux grandes puissances de l'époque, la Perse et la Rome, eh bien, ont été pris et se sont soumis au jugement, ou bien plutôt au pouvoir des musulmans. Et les musulmans avaient le pouvoir sur la plus grande partie de la terre à ce moment-là. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit: wa'utaytu qawluhu wa'utaytu al-kanzain al-abyad wal-ahmar. الكنزين يعني بهما الذهب والفضة فالأبيض الفضة وهو كناية عن ملك الفرس لأن نقودهم من الفضة غالبا والأحمر الذهب وهو للروم لأن كنوزهم من الذهب في الغالب فهذا كناية عن أن الله سيعطي كنوز هاتين الأمتين للمسلمين وقد حصل هذا واستولى المسلمون على بلادهم وصرفوا هذه الكنوز والثروات في سبيل الله عز وجل فأنفقوها في سبيل الله ولم يختصوا بها لهم. Donc le cheikh, il dit, et on va finir avec ça pour aujourd'hui, il dit que le prophète sallam a dit: on m'a donné les deux trésors, le blanc et le rouge. Il dit que les deux trésors, c'est-à-dire l'or et l'argent, il dit que le blanc, c'est l'argent, et ça, c'est pour désigner l'empire le royaume des Perses, parce que eux, ils utilisaient l'argent comme monnaie, hein. Et les Romains, eux, ils utilisaient l'or. Et donc, les deux trésors, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala allait donner ces deux trésors-là à la Ummah, c'est-à-dire aux musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui s'est produit par la suite, puisque les musulmans ont conquis leur pays. Hein? Ils ont pris la Rome et la Perse. Et ils ont pris ces deux trésors-là et toutes leurs richesses, et ils les ont dépensés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils l'ont dépensé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne l'ont pas pris pour eux-mêmes. Hein? C'est-à-dire, ils ont pris cet argent-là, ils l'ont employé pour la cause de l'islam et pour la cause d'Allah. Hein? Pour construire des mosquées, pour construire des villes, pour faire en sorte que les musulmans puissent justement propager la parole d'Allah, hein, et ainsi de suite. Hein? Et donc ça, c'est qu'est-ce qui a été expliqué pour dans ces pages-là. Et dans le prochain cours, on expliquera encore d'autres explications sur qu'est-ce qui a rapport avec ça. Puis on va comprendre après donc tout ce qui a rapport avec la divergence. Parce que c'est pour ça que le cheikh, il cite ces hadiths, parce que dans les hadiths en question, il mentionne que les musulmans vont diverger, ils vont se frapper les uns les autres, et ainsi de suite. Donc, on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, et comment on peut être épargné ou être sauvé de cette divergence-là, hein, si on s'accroche, bien entendu, au Coran et à la Sunna. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.